La Voix des Arts, présentée par Christine Darboux. Bonjour à tous. Alors, comme lors de notre dernière émission, nous allons poursuivre notre voyage en Norvège pour rencontrer d'autres créatrices pionnières au cinéma. Nous avons déjà rencontré les premières réalisatrices, ou plutôt assistantes réalisatrices, scénaristes, voire productrices nées fin 19e siècle. Alors, je nomme Kjørli Drangsholt, Aud Egede Nissen, Jordis Eis, une compositrice Pauline Hall, ou Hall, et une critique également censeur et donc désignée pour veiller à la bonne adéquation film public, qui se nomme Fernanda Nissen. Alors aujourd'hui, les femmes que je vais vous présenter sont nées au tout début du XXe siècle. L'une d'elles se nomme Solveig Eriksen, elle est née en 1903. Elle a commencé sa carrière en écrivant, car elle fut employée par la presse, puis elle écrivit des pièces de théâtre et romans, pour, à partir de 1945, travailler comme relation publique en indépendante. Alors, sa première pièce de théâtre, datée de 1940, intitulée « Femmes professionnelles », sera jouée devant un public, ce qui sera rarement le cas pour ses autres œuvres. Alors, cette pièce se présentait comme un genre de satire sociale sur la condition des femmes au sein de la presse et comment elles sont abusées professionnellement par les hommes, ce qui lui a valu des critiques masculines sur son exagération et son manque de sérieux. Alors elle continuera ses travaux d'écriture jusqu'en 1950. Auparavant, la guerre l'aura forcée à cesser ses activités professionnelles pendant un peu longtemps. Par contre, son attention se focalisera sur le cinéma qu'elle appréhendait en tant que journaliste, en rédigeant des critiques de films et des articles. Ainsi, elle viendra à travailler début des années 40 sur le scénario d'un long métrage du réalisateur Thorald Sandow, intitulé, est-ce que je me lance à le dire dans la langue d'origine, Det Théotru, hein, donc je crois qu'il peut être traduit en français par « C'est incroyable », bon, il valait mieux que je commence par ça, et qui fut plus populaire pendant la guerre. Et son expérience lui donnera l'idée de proposer un genre de guide pratique pour évoluer dans l'industrie cinématographique. Alors, c'est en 1954 qu'elle écrit et réalise enfin son premier et dernier long-métrage intitulé « Cécilia », axé autour de la personnalité d'une jeune femme qui se confronte à des difficultés existentielles. Alors, celle-ci grandit auprès de parents en conflit, au milieu d'une fratrie où seule fille, elle est négligée et subit ensuite des agressions amoureuses masculines. Alors, pour ce film, elle s'investira à fond, de façon, on va dire, artisanale et économique. Elle créera, pour les besoins de la cause, sa propre société de production, Artiste Film, emploiera des amateurs et gérera, contrôlera tout le déroulement de l'intrigue avec poigne et détermination. Et ce film est accueilli comme une production originale. Bon, le fond comme la forme sont insolites et elle traite donc ici, à sa manière, la discrimination. Ensuite, elle réalisera un autre film en 1959, un court-métrage cette fois-ci, intitulé « Mon ami silencieux », toujours axé autour d'un personnage féminin solitaire qui se sent mal à l'aise dans la société. La femme en question vit seule, elle partage toute son affection avec un chien qui comble sa solitude, mais elle est confrontée à la société, à ses règles, à ses normes. Alors, devant elle se présente une succession de problèmes occasionnés par son chien. Le film la montre devant s'acquitter d'une taxe pour pouvoir avoir un chien chez elle. C'est dû à la dénonciation d'une voisine. Pour monter dans le bus avec le chien, elle est obligée de prendre un ticket en plus, mais elle n'a pas le droit de le faire monter sur ses genoux, si bien que la pauvre bête manque de se faire piétiner. Bref, c'est tout un périple hasardeux qui met en relief la vie de gens dont la normalisation sociale n'est pas totale et qui ont du mal à trouver leur place. Et l'image que renvoient donc les femmes dans ce film, en général, ce n'est pas très engageant, car loin d'être les plus compréhensives envers leurs comparses, elles sont parfois les plus virulentes. Alors, avec sa vision de la société des années 50, nous comprenons que sont exclus de ces villes les non-conformes, hommes et femmes confondus d'ailleurs, souvent obligés de trouver refuge à l'extérieur. Et c'est un thème qui semble récurrent dans l'œuvre de Solveig Eriksen, ouvrage et film confondus. Alors, nous savons qu'elle a souffert déjà toute jeune, les thèmes de ses livres et de ses films en témoignent, car ils tournent toujours autour de la solitude et du malaise éprouvé au sein d'un milieu dans lequel le personnage principal ne se sent pas à sa place. Alors, tout ceci est lié étroitement à son histoire personnelle. Elle aurait dit elle-même avoir été très malheureuse dans son enfance, car elle était la seule fille parmi 6 frères que ses parents favorisaient, contrairement à elle, et ils ont reçu l'éducation et l'instruction qui, à elle, lui ont été refusées. Et c'est cette expérience d'une certaine forme de solitude discriminatoire au sein d'un groupe qui amorça l'écriture d'un premier roman autobiographique en 1942, intitulé « Un et les six », même si le personnage central est inventé. Alors elle fait fort, car paraît-il, le roman commence par un scandale, celui où la journaliste Catherine Holm aurait boxé le rédacteur en chef. Alors elle aborde également la relation amoureuse en évoquant une trahison, et l'homme en question est marié. Alors histoire toujours en lien apparemment avec sa propre expérience personnelle. Bref, que du bonheur. Alors, ce que l'on sait également de Solveig Eriksen, de ses premiers pas dans la vie, c'est qu'ils ne furent pas non plus une réussite, car elle fut employée de maison aux États-Unis à l'âge de 20 ans pour être renvoyée au bout d'une semaine, et par la suite, elle aurait tenté de se suicider. Et c'est finalement là que son père est intervenu, dont la formation était celle d'un journaliste, qui l'encouragea à écrire et l'employa, d'après ce que j'ai compris, dans le journal Nordlys qu'il avait créé en 1902. Alors, pour résumer la créativité de Solveig Eriksen, notamment au cinéma, on peut dire que sa créativité s'est développée à partir de ses souffrances familiales et professionnelles et qu'elle a conçu son travail d'écrivaine et de réalisatrice sur la base de ses difficultés existentielles face aux groupes ou d'individus indifférents, voire malveillants. En tout, elle écrira une 20aine d'ouvrages pour décéder quand même à l'âge avancé de 90 ans en 1993, ce qui semble être un pied de nez à la mort pour cette rejetée qui, toute jeune, voulait mettre fin à ses jours. Bon, tout ceci n'est pas très drôle, mais c'est la vie, cependant aussi, pour certains en tout cas. Ce qui tombe bien, c'est que nous allons écouter un peu de musique et je vous propose encore ici de la musique norvégienne traditionnelle, joliment interprétée et chantée.
Brennande bål
Maintenant, se présente à nous une réalisatrice de documentaires et journaliste qui fut également responsable du tourisme à Oslo pendant une quarantaine d'années, ce qui lui a octroyé une certaine célébrité. Il s'agit de Alfhild Hovdan, née en 1904, qui a fait ses débuts de professionnelle en 1932 et est restée jusqu'en 1976, l'âge de sa retraite. Alors, elle avait étudié pour être journaliste, a écrit des articles sur l'art en général, le théâtre et le cinéma principalement, qui ont été publiés dans des magazines et la presse spécialisée. Or, sa préoccupation étant de développer le tourisme, de faire la promotion de la Norvège, elle établit avec ses voisins des échanges fructueux, notamment avec le monde du cinéma. Et par ce biais, elle deviendra l'une des rédactrices en chef d'un magazine de cinéma intitulé « Film » et participera en tant qu'assistante à la réalisation d'un film suédois, une comédie romantique intitulée « En stilla flirt » à partir d'un roman écrit par une romancière norvégienne, Edith Åberg. Or, ce film fut réalisé en 1934 par le réalisateur suédois Gustav Molander, et il a été également doublé en langue norvégienne. Ce qui incite à penser que le rôle de Alfhild Hovdan a été prépondérant dans cette traduction pour favoriser la diffusion en intégrant le son et élargir le public. Alors, ce qui est notable, c'est sa participation à l'élaboration de 3 courts-métrages, des documentaires. Alors, elle aurait réalisé des enregistrements à Oslo et ses environs. Il s'agit d'images sonores qui deviendront des films sur Oslo et des personnalités du monde de la culture norvégienne, comme le musicien Christian Sinding, le romancier Johan Boger et le peintre expressionniste Edvard Munch. Or, il semblerait que ces films intègrent également des interviews, ce qui est plutôt novateur. Alors, elle a réalisé également le premier long-métrage norvégien avec son et paroles. Et celui-ci, intitulé « Le grand baptême », est daté de 1931, mais je n'ai pas davantage d'informations à vous fournir. Or, dans ces films, elle aurait mêlé les scènes parlantes ou sonores, voire illustrées par de la musique sur des scènes entièrement muettes. Bon, apparemment, Alfhild Hovdan a tiré parti avec un certain succès de toutes les possibilités techniques à sa portée afin de promouvoir le tourisme et susciter l'intérêt des gens pour son pays. À noter qu'elle fut également une résistante active pendant la guerre contre les Allemands et fut même incarcérée dans un camp de concentration. Et heureusement, elle en est sortie, sinon elle n'aurait pas pu constituer toute cette belle carrière et en faire profiter son pays. Alors, j'ai mentionné le compositeur norvégien Christian Sinding du 19e siècle, puisqu'il est né en 1856, et je vous propose d'écouter une pièce pour piano intitulée, traduit en français, « Bruissement du printemps », composée en 1896. Thank you. comprenez aussi que sans les journalistes, les critiques de cinéma, l'information ne circulerait pas pour inciter le public à s'intéresser à cet art et pour venir voir les films. Et les femmes, à cette époque, début jusqu'à mi-XXe siècle, étaient particulièrement actives et investies dans cette mission, c'est-à-dire participer à la promotion, la valorisation cinématographique. Alors, la critique de cinéma que je vous présente maintenant avait la réputation de bien faire son travail de valorisation de films, artistiquement parlant. Il faut dire qu'elle avait étudié l'art, aussi la littérature, en France, en Allemagne, avant d'être employée comme journaliste dans un journal indépendant et populaire d'Oslo, le Morgenposten. Et il est vrai qu'elle s'est forgée par la suite une réputation de découvreuse de nouveaux talents d'acteurs. Et qu'elle a aussi permis la découverte de grands réalisateurs français et italiens. Et notamment dans les années 50-60, où elle fut particulièrement élogieuse pour des réalisateurs comme Fellini ou Visconti. Et cette journaliste critique de cinéma se nommait Aude Taggart. Elle était née en 1905 et est décédée en 1978. Alors l'autre critique de cinéma, collègue de Aude Taggart, est Elsa Britta Markussen, qui elle aussi était soucieuse de valoriser le cinéma et de bien communiquer au public ce qui est devenu sa passion. Alors elle est plus jeune de Aude Taggart, car née en 1919. Elle a commencé très jeune à étudier le journalisme, elle avait tout juste 15 ans. Elle a appris, comme on dit, sur le tas, dans un journal de Stockholm, en Suède, intitulé « Social-démocrate Morgon Tidningen ». Et c'est là qu'elle aurait découvert le cinéma. Ensuite, elle a poursuivi une carrière de journaliste et de critique de cinéma en Norvège quand elle a déménagé avec son mari. Et elle est décrite comme quelqu'un de très actif, très investi dans tout ce qu'elle fait, de curieuse, de touche à tout. Elle a publié ses écrits dans de nombreuses revues, magazines. Elle a même fondé son propre journal et a acquis au cours du temps une belle réputation, d'autant plus qu'elle était très soucieuse de pédagogie, notamment auprès des enfants, ce qui fait qu'elle fut un membre actif dans bien des associations centrées sur l'industrie cinématographique pour informer, promouvoir, éduquer. Or, sa préoccupation, c'était de transmettre et de favoriser la compréhension du cinéma. Elle s'est investie au niveau national, mais aussi à l'international. Et si elle favorisait les échanges avec d'autres pays, elle défendait aussi avec force le cinéma norvégien et se montrait pour lui ambitieuse. Elle pensait que son rôle de critique était non seulement de stimuler l'intérêt du public pour des films de valeur, mais également de stimuler le milieu du cinéma afin que ses membres se surpassent. Or, c'était quelqu'un aussi apparemment pour qui la production cinématographique aurait dû davantage témoigner du réel et donc être moins en lien avec la fiction. Et donc plus axée sur un message à transmettre que sur le divertissement ou l'esthétique. Bon, c'est ce que j'ai pu comprendre globalement, car il y a beaucoup à dire sur cette personnalité riche et active. Alors une autre journaliste, auteure et critique de cinéma, se nomme Elsa Appelqvist. Elle est née en 1909 en Norvège, mais il semblerait qu'elle ait poursuivi une carrière en Suède. En 1949, elle publiera son unique livre qui traite de la qualité de vie au travail. Je crois que c'est dans Le Monde ouvrier. Il faut dire aussi qu'elle fut membre actif d'un mouvement ouvrier en Suède. Et dans les années 50, elle a également écrit des pièces diffusées à la radio qui se sont transformées en films d'abord, en court-métrage, puis ensuite en long-métrage. Alors le titre en est « Maman fait la révolution », qui relate la vie d'une femme au foyer qui en a marre et qui s'en va en laissant mari et enfant. Et c'est pendant son absence que les membres du foyer se rendent compte combien elle était essentielle dans leur quotidien. Aussi, à son retour, elle est considérée autrement, certainement avec plus de respect ou de considération, on va dire. Et c'est Elsa Appelqvist elle-même qui a écrit et adapté les scénarios. Mais c'est une réalisatrice suédoise, également actrice, comédienne et metteur en scène de théâtre, nommée Mimi Pollack, qui aurait assuré la réalisation de ce court-métrage, qui sera repris ultérieurement par un autre réalisateur suédois, nommé Shamil Bowman, sous le titre de « Maman prend des vacances ». Et bien maintenant s'achève ma présentation de nos pionnières au cinéma, puisque nous arrivons en fin de l'émission. Comme vous le voyez, j'ai toujours beaucoup à raconter sur nos créatrices, mais nous verrons cela la prochaine fois. En attendant, bonne digestion de toutes ces informations. Et merci de votre écoute de La Voix des Arts.
La Voix des Arts, présentée par Christine Darboux.